espèce de pêcheur mexicain contre les extraterrestres. Donc là, on a déjà une bonne base rien qu'avec Julien. À ses côtés, Antoine Lancoux. Alors, Antoine Lancoux, parmi les deux qu'on a choisis, il y a Notre nom vous appartient, il y a Corps perdu. Avec un bureau des suicides. Donc, on va pouvoir parler administration et suicide. Ouais. À ses côtés, Charles Strauss. Alors, Charles Strauss, Les Princes Marchands, Accelerando, qui vient tout juste de sortir aux éditions Piranha. Avec lui, on parlera notamment de trafic de drogue. Hein, je pense que ça peut être bien. À ses côtés, son traducteur, Laurent Weil, qui est traducteur et auteur. Qui est d'abord auteur, mais qui nous dépanne super bien pour les traductions. Qui suit, je sais bien, exactement. Mais qui est en auteur des gens théoriques, qui fait partie du panel. Oui, j'en ai un autre derrière. Tu vois, où m'arrête. À ses côtés, Francis Berthelot. Alors,
enters a true realm of mathematics, and if you solve the right theorems, you can cause beings from other universes to pay attention and do things for you.
Dans ce monde-là, c'est comme un royaume mathématique, et si vous arrivez à résoudre un théorème quelconque, vous parvenez à intéresser des aliens à vous aider à faire des choses sur la Terre.
Computers and machines can be used for doing mathematical operations very fast.
Les ordinateurs sont bien sûr connus pour pouvoir faire des opérations mathématiques extrêmement rapidement.
So it follows that magic is a branch of applied computer science.
Alors, évidemment, ce qui suit, c'est que la magie est une branche de la science informatique.
So, I have this geek called Bob, who nearly destroyed a British city by accident while working on his thesis.
Il a ce geek qui s'appelle Bob, qui a pratiquement détruit une ville anglaise, tandis qu'il travaillait sur what was he working on?
His doctoral thesis.
His doctoral thesis. Somebody knows what that is. Sa thèse de doctorat, yes. Il est embauché dans cette organisation secrète
to keep him out of trouble.
Globalement pour l'empêcher de foutre la merde.
But after 2 years of laying Ethernet cables and fixing printer jams,
et après 2 ans de tirer des câbles informatiques et de réparer des imprimantes qui déconnent,
he volunteers for active duty.
Il s'enrôle pour le service action.
Which he learns to regret very rapidly because it involves things with too many tentacles.
Oui, et qu'il apprend à regretter extrêmement rapidement parce que ce truc-là implique des relations avec des choses qui ont beaucoup de tentacules.
There's actually a whole series of these books, although only the first two have been translated into French.
Il y a toute une série de ces bouquins, mais à l'heure actuelle, il n'y en a que deux qui ont été traduits en français.
The first four novels were written in the style of particular British spy thriller writers.
Les quatre premières ont été écrites dans le style particulier des thrillers d'espionnage anglais.
The first of them was Len Dayton.
La première était Len Dayton.
Then Ian Fleming.
Oh yes, Ian Fleming, donc inspiré par Ian Fleming, donc c'est un gentleman.
That novel has been translated as Jennifer Maud.
And ce roman-là a été traduit au Cherche Midi. What was the name of that?
Jennifer Maud. The third book, which hasn't been translated, is in the style of Anthony Price.
Le troisième qui a été traduit dans le style d'Anthony Price.
And then Peter O'Donnell.
Et puis Peter O'Donnell.
But after that, I've switched track. The fifth is a vampire novel.
Après ça, il a changé de direction pour les histoires de vampires.
And book 6, which comes out next month, has Superheroes versus Cthulhu.
Et le bouquin numéro 6 qui sort next month,
yeah.
Comes out, qui sort le mois prochain, a des super-héros qui vont combattre Cthulhu.
And the final thing is, this is a horror series. It's also humor, both at the same time.
Et pour clore ça, c'est une histoire d'horreur, mais aussi d'humour. Déjà, une bonne idée de pourquoi est-ce qu'on les a invités là, tous les trois. On va poser la même question à Francis. Un petit peu, on parle de l'univers du rêve des Démiurges. Quand on est dans la tête.
Bon, alors, il y a une chose que je voudrais quand même préciser, que le présentateur aurait dû faire, c'est que je suis un auteur posthume. L'écrivain Francis Berthelot a mis fin à ses jours le 27 juillet 2011, le jour de son 65e anniversaire. Il venait de terminer le 9e tome du Rêve du Démiurge, qui va paraître à la fin de l'année chez Dystopia. Donc il aura attendu 4 ans pour être publié. Voilà. Et le contenu de ce livre explique pourquoi justement j'ai arrêté d'écrire après. Mais bon, pour répondre à ta question, le rêve du Démiurge, c'est quelque chose que j'ai commencé après avoir écrit Rivage des Intouchables, qui était un 5 ans. Puis j'en ai écrit un deuxième qui s'appelait Jean Pur interrompu, qui se passait à peu près à la même période. Et j'avais dû amputer le premier de quelques chapitres parce que ça faisait deux romans en un. Donc ça m'embêtait beaucoup parce que c'était les chapitres qui m'intéressaient le plus. Donc je me suis dit, je vais reprendre ces chapitres, je vais en faire la cellule de départ d'un troisième roman, et tant qu'à faire, donc qui sera la suite de L'ombre d'un soldat, et tant qu'à faire, je vais mettre un personnage du Lambert interrompu dedans, puisque les périodes sont compatibles. Et donc ça va être la suite des deux premiers, et je vais faire basculer ça dans le fantastique, parce que quand même, bon, il y a un moment où la réalité, ça craint, quoi, faut dire ce qu'il y a. Et donc ça a été Mélusate. Et à partir de là, on a commencé à se créer un cycle involontaire, parce que à chaque fois que j'avais un personnage, je me disais, tiens, je continuerai bien à raconter son histoire. Et à mesure que j'avançais, ça basculait de plus en plus dans, alors je ne sais pas dans quoi, dans le surnaturel en tout cas, et ça atteignait des proportions astronomiques, effectivement, dans les derniers, où on va se balader dans le cerveau des personnages. Bon, il y a des âmes qui se baladent en liberté, enfin bon, il n'est plus du tout dans le réalisme. Et alors, le deuxième, c'est l'histoire de l'auteur des 8 premiers, qui travaille pour une maison d'édition, et sa maison d'édition est rachetée par un grand groupe, et ça le met en très mauvaise position parce qu'il ne rapporte pas beaucoup à ses éditeurs, je ne sais pas où il va chercher des idées pareilles. Et donc, sa carrière est menacée. Et ses personnages de ses 8 premiers romans sortent des limbes de la fiction, où ils vivent normalement, quand personne ne s'intéresse à eux, et viennent soit lui donner un coup de main, soit l'enfoncer, selon qu'il les a bien ou mal traités. Bon, alors tout ça, ça se passe sur deux niveaux, et ça finit, et je ne vous dis pas comment, mais disons qu'après avoir écrit ça, écrit la fin de ce livre, bon, c'était clair pour moi que je ne pouvais plus écrire, je n'avais plus rien à dire avec des mots, donc je me suis recyclé, comme dit mon statut sur Facebook, écrivain posthume et compositeur virtuel. Donc je me suis recyclé dans la composition sur ordinateur et je compose des musiques de ballet sur des arguments fantastiques, merveilleux. Et le troisième sera une histoire de vampire. Enfin bon. Et mon premier CD qui s'appelle L'Inaccessible va sortir chez Musée Records au mois de juillet. Donc voilà, c'est un ballet en 5 tableaux qui dure 73 minutes. Je ferai des prix quand je le vendrai moi-même. Vous pouvez l'acheter soit sur Amazon, soit sur le site. Vous pouvez télécharger, enfin, il y aura un certain nombre de sources. Je mettrai tout ça sur Facebook. Et je crois que ça vaudra 15 euros. Et moi quand je le vendrai dans les festivals, je ferai un prix, je le vendrai à 12 euros. S'il y a des gens aimables, qui sont aimables avec moi, peut-être je leur en ferai cadeau, mais bon, tout est dans la définition du terme aimable. Et par ailleurs, ce neuvième tome va être édité enfin par Dystopia, donc il s'appelle L'Abîme du rêve. L'Abîme du rêve, il va apparaître à la fin de l'année, et Dystopia entreprend la réédition omnibus en 3 gros volumes de l'ensemble du cycle. Donc ça fera 3 fois 3 romans. Et qui paraîtront fin 2015, fin 2016 et fin 2017. Donc on aura tout ça. Je ne sais pas encore si ça sera prêt pour les Utopias, j'espère. Mais on verra. En tout cas, le CD il sera là pour les Utopias.
Alors, Jacques Barberis, alors est-ce que tu es vivant d'abord? Première question. Et puis, je voudrais que tu nous parles notamment de Narcose, où tu as des héros à tête d'animaux et tu as un héros qui se retrouve dans le camp d'un lapin.
Alors, je suis vivant, comme Philippe Canic, d'ailleurs. Oui, je voulais juste dire un petit truc d'abord sur la notion de l'auteur déjanté, en fait, parce qu'on est catalogué, j'en suis très content d'ailleurs, comme auteur déjanté, mais ça veut dire donc qu'il y a d'autres auteurs qui ne le sont pas, en fait. Et alors, aujourd'hui, en fait, les auteurs déjantés étaient presque les plus nombreux, quand on pense à John Slanek, à Raphaël Aloysius Laferty, Thomas Dish, Philippe Cadic, bien évidemment, James Tiptree Jr.
Excusez-nous de cette interruption au champagne.
Je continue à parler donc où Arlène Ellison avait été des choses plus jeunes. Je ne pense pas que l'homme soit le sommet de l'évolution pour l'instant. Il est considéré tout en évolution, mais j'ai envie de temps en temps de remettre la jante d'animalière un petit peu sur le devant de la scène. Et je pense même qu'il y aurait pas mal de choses à faire au niveau des symbioses, de certaines symbioses qui pourraient se réaliser entre l'homme et l'animal, aussi bien au bénéfice de l'un que de l'autre. En ce qui concerne les têtes d'animaux, les têtes d'animaux, il n'y a pas que les têtes d'ailleurs, justement, c'est toute une série de greffes qui peut être ce que j'appelle en tête des plastis appendices. En fait, le terme plastis est uniquement au niveau de la jonction entre l'organe animalier et l'humain. Alors, ce sont des greffes de tentacules ou de mains de lémuriens microcèbes et qui ont un intérêt surtout au niveau des pratiques sexuelles. C'est pas mal, les tentacules, les petites mains de lémuriens microcèbes autour des fesses ou autour de la poitrine. Bon, enfin bref. Quant aux têtes, c'est pour affirmer peut-être un certain caractère aussi. Celui qui se greffe une tête de lion, c'est dans un but précis. Bon, alors ça peut être mafieux, ça peut être quelqu'un qui veut mettre en avant son agressivité, ou tête de lion, tête de chèvre, tête de rat. Tête de cheval et tête de gondole, exactement. Il y a un paquet de bouquins d'importance de sujet tout seul. Oui, c'est ça. Bon, alors, ce que je dis, c'est peut-être un peu du coutume, c'est pas normal, vu que je suis un peu déjanté, donc c'est logique. Alors, c'était quoi ta question, en fait?
Comment, mais tiens, pour répondre, hein, comment est-ce qu'on a pu imaginer tout ça et cet univers-là? Ce qui est intéressant, ce que tu disais, c'est effectivement une science-fiction des 60-70 qui parfois pouvait sembler un petit peu halluciner. Est-ce que par exemple Charles Strauss, vous sentez en filiation avec ces auteurs comme a été cité Dick, Brunner ou bien encore Slanek?
So much John Brunner.
certain qu'il soit même qualifié pour lui tirer les chaussures.
Un petit mot sur, sur l'influence peut-être un peu dickienne de Stoner Road.
Alors, oui, un peu, mais pas tant que ça. En fait, c'est vraiment une influence, je pense, qui a été vraiment digérée, puisque j'ai lu beaucoup de Philip K. Dick en étant ado. En fait, au moment des années lycées, comme beaucoup, je pense, après les passionnés continuent de se plonger dans ces univers-là. Et c'est vrai que moi, après, je n'y suis pas forcément revenu. Pour tout ce qui est notamment rapport à la drogue et au délire, etc. Oui, je pense que c'est indéniable. Voilà, après, Philip K. Dick, je pense que s'il connaissait bien plus, et plus d'expérience peut-être que moi.
Une petite question sur Francis, en plus, c'est un des sujets que je me suis dans la ville au fond, mais sur la question des limites. Des structures. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a parlé pendant un moment, mais est-ce que c'est quelque chose qui te travaille encore, plus dans ton travail d'écrivain, mais qui t'a travaillé sur les derniers rêves du gamer?
Je ne comprends pas ta question.
En fait, je pense surtout à la ville de Fontenay, qui a une structure et qui a un univers qui est complètement fou.
La ville de Fontenay est un roman très particulier parce que je l'ai écrit, j'étais en pleine dépression et c'est le seul de mes romans que je n'ai pas construit avant de l'écrire. Ce qui a posé beaucoup de problèmes, parce que quand j'ai relu le premier, là, j'avais qu'une envie, c'était de jeter ça à l'autre bout de la pièce. C'était vraiment un catalogue de symptômes schizo, et c'était juste pas lisible. Donc il a fallu que je reprenne tout ça, que les personnages consentent à interagir, qu'ils veuillent quelque chose, parce qu'ils étaient tous dans leur coin à ne rien vouloir. Il n'y avait pas d'action, il ne se passait rien. C'était juste ma pathologie mentale de l'époque qui se déversait faute de mieux. Et donc, je l'ai restructuré. J'en ai fait une histoire, ils ont interagi, etc., etc., etc. Mais c'est vraiment un cas unique. Je suis vraiment un auteur structurel, c'est-à-dire que je construis tout. Jusqu'au sous-chapitre avant de commencer à écrire. D'ailleurs, en musique, c'est pareil, je fonctionne pareil. J'ai mon synopsis, j'ai mon catalogue de thèmes, je sais que mon tel personnage va être représenté par tel leitmotiv qui va évoluer de telle et telle manière. Bon, et je sais que dans chaque tableau, il y aura tant de morceaux. Et on m'a dit, et ça m'a fait assez plaisir, des copains à qui j'ai fait écouter une première version de l'Inaccessible. Donc, l'Inaccessible que j'ai écrit d'après, à partir d'une nouvelle publiée dans Actes Sud, chez Actes Sud, chez non pas chez Actes USF, chez qui? Chez La Volte. Ah oui, je ne sais pas. Je parle aux limites du son. C'était chez La Volte, voilà, La Volte. J'y arrive. Non, mais. En ce moment, je salue les gens. Bonjour, machin, alors que ces trucs, je suis un peu grave. Voilà, aux limites du son qui était vendu avec un CD, puis je ne sais pas du tout ce que la musique avait été faite sur mon truc. Ouais, c'était pas vraiment une musique de sonorisation. Bon, ouais, bricolage sonore, voilà. Donc je me suis dit, je vais prendre ça et je vais en faire un ballet, parce que j'aurais fait d'écrire de la musique de ballet. J'adore les musiques de ballet, c'est la forme de musique la plus géniale au monde. Enfin bon, c'est la seule qui soit vraiment, qui raconte des histoires, qui soit sympa, quoi. C'est tout le contraire du rap, du free jazz, de la musique religieuse.
Voilà, donc on est parti sur les drogues et sur la musique.
Ouais. Moi je vends ma carte, hein. Je suis désolé, mais bon.
Sur le traitement de l'univers par l'absurde dans vos romans avec le bureau des suicides, qu'est-ce que vous vous êtes pas permis, quelle limite à un moment vous êtes mis?
En fait, je m'en suis pas mis. Les personnages ont vécu leur vie, contrairement à mon petit collègue qui vient de parler. Moi, je structure absolument rien. J'ai une vague crâne et je parle avec ça. Et mes personnages.
Tu es un écrivain scriptural. Je t'en félicite.
Et pourquoi les objets sont mis à parler à un moment? Parce que mon héros a passé une porte et la porte lui a dit bonjour. Et c'est parti à partir de là. Donc les limites, non.
franchement, la seule limite pour moi, c'est la cohérence interne du récit, en fait. C'est que voilà, le récit tient du début jusqu'à la fin. Une fois qu'on arrive au bout, alors du début jusqu'à la fin, non, mais une fois qu'on arrive au bout, rétrospectivement, on se rend compte que tout est articulé, tout fonctionne bien, tout est entre guillemets explicable. Voilà, moi, pour moi, c'est ça la limite. Après, à l'intérieur même de chaque scène, liberté totale. Mais la cohérence.
Tout à fait d'accord avec ça, effectivement.
Là, tu as quelque chose à dire. Là, Julien, et puis après, sur le sens.
Moi, disons que.
Oui, c'est, je m'en trouve dans des propos sur la cohérence du récit. Et personnellement, ça peut être un peu fou, ça peut être un peu déjanté, il peut y avoir différents types de créatures, d'actions, etc. J'évite, moi, mais c'est un peu personnel, tout ce qui peut être un peu métaphysique ou allégorique ou ce genre de choses. Même dans le délire le plus complet, je pense qu'il y a toujours un côté un peu, pas cartésien, mais assez posé, en fait, quoi. Parce que j'aime pas me perdre là-dedans, j'aime pas perdre l'électeur.
Même quand tu as des catcheurs qui affrontent des extraterrestres.
Voilà,
j'essaie
que ça se tienne un minimum sans partir dans un délire.
Charles Strauss, même chose.
I think there are two limiting factors on what you can write.
Je pense qu'il y a deux facteurs limitants quant au rapport avec ce que vous pouvez écrire.
The less important one is writing something that will keep the reader's attention.
Et de d'écrire quelque chose qui va capter l'attention du lecteur.
You may reduce your audience, but you won't lose it completely.
Vous allez peut-être réduire votre lectorat, mais vous n'allez pas le perdre complètement.
I've tried. For example, I wrote a crime novel in the second person present tense.
J'ai essayé d'écrire un roman de histoire de détective à la deuxième personne et au present tense. Qu'est-ce que c'est present tense? Au présent. Ouais.
About the future of computer crime.
À propos du futur de la criminalité informatique.
Without using the words computer or software.
Sans utiliser les mots computer ou logiciel. Ordinateur ou logiciel.
That's just a stunt.
Ah oui, ça c'était une cascade.
But you can get away with a lot.
Vous pouvez vous en sortir avec beaucoup de choses. Enfin, vous pouvez lire avec beaucoup de choses.
You can even write novels with virtually no structure or with no people in them.
Oui, vous pouvez pratiquement écrire des romans avec pratiquement aucune structure, voire même aucun personnage.
But that brings me to the real obstacle, the real limitation.
Mais ceci nous amène au réel obstacle.
Which is what? Is acceptable to publish.
Qu'est-ce qui est acceptable pour être publié?
Americans are very big on freedom of speech.
Les Américains sont font des caisses à propos de la liberté d'expression.
But I once pitched a novel idea at an editor of mine and she smiled.
Mais j'ai raconté l'histoire d'un roman à un de mes éditeurs et il a souri.
And she said, yes. You can write whatever you want, but we don't have to publish it. There are certain topics which are seriously untouchable.
Il y a certains sujets qui sont extrêmement intouchables.
Try doing a serious novel that gives a sympathetic portrayal of an Islamist terrorist.
Ouais. Essayez d'écrire un roman qui donne un portrait sympathique d'un terroriste islamiste.
Or similarly of a child abuser.
Ou pareillement d'un pédophile.
At the least people will raise eyebrows at you. More likely they'll just not publish it or they will not read it.
Ouais. Le moins qui va se passer, c'est que
réaction de lecteur ou d'éditeur étonnante par rapport à ce que vous avez écrit de temps en temps.
Julien ? Oui, alors je me permets là-dessus parce que avec la collection Trash, on a publié jusqu'à présent depuis 2 ans une quinzaine de romans Trash dans la droite ligne de la collection Gore du Fleuve Noir. Et c'est vrai qu'on s'attendait à beaucoup de réactions, peut-être même négatives ou hostiles, etc. Mais ça n'a pas du tout été le cas puisqu'on a eu. Mais sinon, ça a été un accueil éminemment sympathique, des gens très enthousiastes, et même sur les salons, je dois dire, où par rapport aux couvertures, au quatrième de couve, des fois ça peut être un peu tendu, y compris dans les citations, dans les dessins, dans les illustrations, très explicites. On a toujours été très très bien accueillis, donc voilà, on a une collection un peu jusqu'au boutiste, mais pour le coup, on ne met pas en valeur des personnages qu'on a pu évoquer, Charles Strauss de Pédophile, etc., mais au niveau des thèmes, on va assez loin. Sans vraiment de tabou, et pourtant pas de problème en tout cas jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il faut que je touche du bois ou pas, ça pourrait faire la paix d'un autre côté, mais bon, pour l'instant, voilà, il y en a des plus loin.
Antoine, je suis assez content de l'accueil que les deux romans sont bien également lu. Parler du suicide après Fessier, ça peut choquer, mais bon, j'ai mis l'humour un peu vincent, un peu noir. J'ai eu de très bons accueils, d'autres gens qui n'ont pas du tout adhéré, mais c'est normal. Et hier, toi, je suis super content du bon petit univers et des idées des collègues qui m'ont dit je ne veux pas vivre là-dedans. Je leur dis, vous n'aurez pas le choix.
Mais c'est peut-être pour l'instant, dans le temps actuel, il n'y a pas de censure des lecteurs, en tout cas de réaction négative, qu'on va loin dans certains univers.
Non, pas de censure, sans ce strict univers. C'est pas de rejet.
Non, il n'y a pas de façon. Moi, je veux dire, le fait d'écrire des romans un petit peu particuliers est quand même limite énormément les possibilités de vente. Quoi. C'est ça surtout. C'est que, bon, alors après les retours, moi, ce qui me concerne, j'ai toujours d'excellents retours, mais j'ai une poignée de fans quand même très réduite. Quoi. Là, c'est ça le problème. C'est que. Non, je voulais dire aussi un truc, c'est qu'aux États-Unis, enfin, dans le milieu anglo-saxon, il y a quand même eu des regroupements et des tentatives de regroupement d'auteurs justement autour de récits un petit peu plus déjantés. Il y a eu le phénomène avant-pop, il y a eu le Pizarro. Bon, ça ne pas trop, ici ça se passe pas trop, quoi, et ça franchit même pas trop d'ailleurs les frontières, il y a peu de trucs qui sont traduits. Alors dans les pays anglo-saxons, il y a quand même comme ça des tentatives de regroupement d'auteurs et de. Voilà, qui essaye de transmettre un petit peu mieux des textes déjantés. Je ne sais pas si Charles Strauss connaît ce qu'il en pense, mais peut-être un truc à dire là-dessus. Les Italiens ont relayé l'avant-pop. Ouais, ils avaient traduit le manifeste de l'avant-pop de McCaffrey, là. Mais ici, pas du tout, quoi, en fait.
Si un tel groupe existe, il n'a pas été invité.
C'est ça, c'est qu'il y a un auteur qui commence à être un petit peu connu ici, hein, avec ses bouquins qui a été traduit. C'est Jeff Van Der Meer qui.
New World, yes. Yeah, they exist. I'm not one of them.
Ils existent, mais il n'en est pas un. Francis. Oui, moi je voudrais reprendre le terme de retour du public, parce que ce terme est extrêmement malheureux. Parce que pour un auteur, les retours, c'est les bouquins que les libraires renvoient à l'éditeur parce qu'ils ne les ont pas vendus. Donc le mot retour est un mot qu'on ne doit pas prononcer dans ma présence. Et par ailleurs, je rejoins totalement Jacques. Oui, non, mais j'avais bien compris, mais il y a un autre sens dans ce mot retour. Justement, et par ailleurs, je rejoins totalement Jacques en disant que le problème, c'est effectivement que, on reçoit des éloges vibrants. Ouais, putain, mais qu'est-ce que tu écris bien? Oh là là, mais t'es un bouquin, et
chez 6 éditeurs différents pour le faire.
C'est de la faute de Laurent. Est-ce que vous avez des retours, mais des questions à nos auteurs?
Ne jetez pas les bouquins.
Et si on a 5 minutes?
Eh bien, c'est parfait. Juste un truc, alors on parlait du gore, et que j'avais écrit un gore avec Emmanuel Fouane. Pour ceux qui seraient intéressés, je ne sais pas si tu... Dans le collection gore, oui. Rêve de chair. Il est en train d'essayer de demander droit de la rentrée.
Je pense que ça serait rêve de chair inconnu, peut-être. Parce qu'il y a eu deux noms, rêve de chair, je sais pas.
Il n'y a pas à le faire, mais ça c'est le rouge de fort.
Et moi, je l'ai dit dans les tiroirs.
Il y a des écossais dans leur tête.
On est sur un speed dating, auteur éditeur. En limite, complètement faux, je pense qu'il marche très fort sur certains trucs. C'est le dino porno. Le dinosaure. Et ouais, je vous laisse, ça laisse rêveur pareil sur les.
Mais que fait Christine Boutin? Ça devient populaire.
Anecdote. Anecdote. Has everybody here heard of Clarion Writers Workshop in America?
Est-ce que quelqu'un a entendu parler de l'atelier Clarion aux États-Unis? Yes, one.
It's where young writers go for a six-week residential course taught by famous writers and editors.
C'est une résidence d'auteur où les jeunes écrivains vont passer 6 semaines en compagnie de. En compagnie d'écrivains confirmés qui leur apprennent le métier.
Yeah. One year, the course, two of the teachers, sorry, teachers go in for 1 week at a time.
Les écrivains sont en place, ils y vont pour une semaine et ils sont en place.
So, 1 week, Michael Swanick goes in to teach.
Pendant une de ces semaines, Michael Swanick va enseigner.
And the students are all writing short stories, and he's reading them and frowning.
Tous les étudiants sont en train d'écrire des nouvelles. Il les lit et puis il fronce ses sourcils.
And he then utters to the class, no, there's too much sodomy here. You need more dinosaurs.
Et puis dit non, ça va pas le faire. Il y a trop de sodomie. Vous avez besoin de plus de dinosaures.
l'augmentation du prix, j'ai trouvé confronté à des problèmes financiers il y a 2 ans.
So Ian Waite's organized an anthology of short fiction.
Alors Ian Waite a organisé une anthologie de nouvelles.
As a fundraiser.
Pour lever des fonds. Voilà, c'est ça.
Now,
et suivez quoi, moi.
Clark is famous for a series of short stories set in a pub called The White Hart.
Clark est connu pour une série de nouvelles qui se passent dans un pub qui est appelé le Cerf Blanc.
They're all told among a drinking group of scientists.
Et ce sont des histoires qui se passent avec un groupe de scientifiques bourrés.
And they're basically shaggy dog stories.
Oui, ils racontent globalement des histoires cauchemars.
Usually with at least 2 puns in the last sentence.
Et habituellement avec 2 jeux de mots dans la dernière phrase.
And this was to be a sort of shared universe tribute anthology to the Tales of the White Hart.
Et cette anthologie était censée être un hommage, un tribut aux histoires du White Hart.
I deliberately set out to test Swanwick's law by writing an Arthur C. Clarke story involving dinosaurs and sodomy.
Et donc j'ai vraiment essayé de tester en écrivant une histoire d'Arthur C. Clarke qui impliquerait des dinosaures et de la sodomie.
But the method didn't work.
Eh ben, ça n'a pas marché.
Moi, je propose qu'on garde cette table ronde. Toute science-fiction peut se résumer, peut s'améliorer.